Vous écoutez France Musique.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Alex Taylor. Je suis votre chef de cabine. Au nom de notre commandante de bord, qui est ce soir Sophie Koch, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous assurons de votre plaisir et de votre confort au cours de ce vol de France Musique, pendant lequel nous allons survoler de nombreux paysages, dont ceux de l'Aude, de Versailles, d'Annecy, et d'autres de Chicago à Tokyo. Vos téléphones portables doivent maintenant être éteints et ce jusqu'à l'arrivée à notre générique de fin. Veuillez attacher et ajuster votre imagination, redresser votre curiosité en vue de notre décollage immédiat. Préparez-vous à aller tous à l'opéra et pluche légumes à la main. Ladies and gentlemen, welcome et en Bauard. My name is Alex Taylor. Voyage en moi majeur, ravi de vous retrouver ce dimanche soir avec la mezzo-soprano Sophie Koch. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tout de suite, épluchant les mystères, vous avez répondu à notre questionnaire, l'objet de luxe que vous emportez avec vous partout, et plus légumes. Pourquoi vous avez peur des légumes sur place ?
Mais c'est-à-dire que je suis rarement à l'hôtel parce que mes séjours sont prolongés dans toutes les villes que je visite. Donc je me retrouve dans des appartements et j'aime cuisiner, figurez-vous, c'est une de mes passions. Et quand on ouvre le tiroir de ces cuisines de location, on trouve très très peu d'accessoires. Et
vous n'êtes pas arrêté par la police dans les sens de sécurité?
Oui, aussi ça m'est arrivé, bien sûr, avec des mixeurs, parce qu'au début je voyageais même avec des casseroles.
Ah, des mixeurs en plus?
Oui, 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 mais maintenant j'ai réduit parce qu'on est limité en poids, n'est-ce pas, comme vous savez, dans les avions. Alors, comme j'ai limité, mais j'en suis réduite à prendre un épluche légumes.
Et quel genre de légumes épluchez-vous?
Légumes de saison.
Non, mais vous êtes bonne cuisinière.
Il paraît, écoutez, c'est pas à moi de le dire, mais je me débrouille.
Si, dites-le, quel est votre plat de prédilection? Si on dîne, après l'émission ce soir tard, qu'est-ce que...
Ah, ce soir tard, ça dépend ce que j'ai soit dans mon frigo, soit ce que je trouve ouvert, mais soit une salade improvisée ou des quiches ou des... Après, ça peut être plus élaboré, bien sûr.
Bon, ben, on est à faire nos emplettes dans les différentes villes qui nous attendent, parce que c'est vous qui avez choisi notre itinéraire pour ce voyage. À commencer par une musique qui va nous faire lever nos parapluies.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, I'm happy again. I'm singing and dancing in the and singing in the rain.
Gene Kelly, dans notre commandeur de bord, était amoureuse, peut-être toujours, je ne sais pas, Sophie Coche. C'est ça qui vous a donné...
Oui, je voulais me marier avec lui quand j'étais petite, bien sûr.
Singing in the Rain, la comédie musicale, c'est ça qui vous a donné envie de chanter?
Absolument, c'est ce qui a déclenché un amour pour le spectacle en général. Je ne savais pas du tout sous quelle forme. En fait, j'aurais adoré faire de la comédie musicale, mais je ne suis que chanteuse d'opéra.
Pourquoi la comédie musicale a un peu de mal à pousser en France?
Je ne sais pas du tout, ça c'est les traditions, c'est les racines, il faut remonter peut-être à bien longtemps en arrière pour comprendre. Peut-être parce qu'elle est essentiellement anglophone, c'est peut-être pour ça que ça... Mais maintenant, bon, il y en a certaines qui ont été traduites et qui font venir beaucoup de monde dans les salles de spectacle. Mais voir une comédie musicale à Londres ou aux États-Unis, ça reste une expérience unique.
Alors, votre première escale, c'est Londres. C'est une ville où vous avez commencé avec le Barbier de Séville et puis Così Van Tutte.
Oui.
Et cette ville, pourquoi vous avez choisi comme escale?
Parce que c'est mon départ dans ma carrière internationale. C'est une audition qui s'est passée de manière très drôle parce que le directeur, moi j'étais pressée de prendre mon train, le directeur m'a rattrapé dans la rue pour me demander si j'avais 5 minutes pour parler avec lui dans le bureau. Et puis ça m'a ouvert les portes du monde en fait. Donc,
j'ai lu dans une interview de vous que c'était en passant les frontières, c'était un déclic dans votre tête. Ça tombe bien pour notre émission parce que quel était ce déclic alors? C'est quoi? C'est une espèce de libération une fois que vous n'étiez plus en France, tout d'un coup vous êtes lâché?
Tout à fait, parce que bon, on ne parle pas la langue, personne ne vous connaît, il faut faire complètement vos preuves et on se sent plus libre finalement.
Vous allez souvent à Londres?
J'y vais régulièrement, c'est une ville que j'aime où je me sens très libre. Je trouve qu'il y a. On peut être n'importe comment à Londres et personne ne vous regarde.
Et c'est une bonne chose?
C'est une bonne chose, oui.
Je trouve que les salles entières du monde entier regardent tout le temps, vous tenez à passer inaperçu?
Oui, c'est drôle parce qu'il y a tellement d'excentricité. On prend le métro, vous voyez des gens à la fois.
Tout le monde me dit ça, mais moi je suis anglais.
On voit des gens en costume trois pièces, on voit des punks à côté ou des gens complètement. Enfin, mal fringué ou en tout cas bizarrement fringué. Et puis, tout le monde cohabite. Je trouve ça formidable.
C'est peut-être une vision française aussi.
On a l'impression que dans le métro français, parisien, on est un petit peu plus coincé.
Alors, quels sont les rôles à Londres qui vous ont marqué?
Oui, il y en a beaucoup. Ça a été ma rencontre aussi avec un grand chef d'orchestre allemand, Christian Thielemann, en 2001, quand on a fait Palestrina, un opéra qui est rarement donné et qui était un des plus beaux souvenirs de ma carrière. C'était une réussite totale où il y avait le décor, les costumes, la qualité du cast, la direction. C'était vraiment un très, très grand moment d'opéra.
Vous parlez beaucoup de Thielemann, j'ai vu aussi. Qu'est-ce qu'il a de spécial?
Bah, c'est quelqu'un de très impressionnant. Déjà par sa stature, parce qu'il dégage.
J'ai interviewé une fois, effectivement.
Oui, il a une force animale quand il dirige. Il a une autorité naturelle très forte. Et puis, il a une patte bien particulière.
Vous avez parlé du fait de louer toujours des appartements, mais j'ai lu aussi dans les interviews sur vous qu'au début, c'était la solitude dans les chambres d'hôtel. Donc, c'est un peu en réaction à ça. Comment vous gérez ça quand vous allez à l'étranger quelque part, vous...
Ah ben, les débuts sont difficiles. Enfin, moi, je n'étais jamais partie seule. Je suis fille unique. Donc, j'ai débarqué là-bas. C'était une coupure totale avec un monde familier. Et au début, notamment à Dresde, oui, les soirées étaient longues. Quand on se retrouve dans son petit deux pièces, vous
ne
connaissez personne. Moi, j'ai fêté mes 30 ans là-bas, c'était triste à mourir. Et puis, avec le temps, on rencontre les gens. Ça vous force aussi, le fait de voyager et d'être seul, vous force à aller vers les autres pour briser cette solitude. Et puis, on rencontre des gens, on noue des liens. Après, vous retournez dans les villes et là, vous connaissez des gens. Et c'est formidable, c'est riche.
Vous voyagez autre que pour le travail ou est-ce que vous restez dans plutôt avec votre famille dans...
Alors, évidemment, quand on passe son temps à voyager, on vit à l'inverse des gens qui travaillent là où ils habitent. C'est-à-dire qu'on aime passer des vacances chez soi. J'ai la chance d'avoir un coin que j'aime beaucoup dans le sud-ouest, dans l'Aude, justement. Mais il m'arrive de faire des très beaux voyages et je suis notamment allée au Cambodge parce que je suis très impliquée dans une fondation qui s'appelle Colline Opéra, dont je suis la marraine.
C'est pour les hôpitaux à Phnom Penh.
Oui, on développe beaucoup de choses pour venir au secours d'enfants qui n'ont pas l'accès à des soins fondamentaux, quoi, qui leur permettent de survivre. Et donc d'aller sur place, de découvrir un pays très lointain qui est tiers-monde, hein, il faut quand même le dire, c'est un choc. C'est un choc de culture, de civilisation. Ça vous fait prendre conscience de ce que c'est l'argent. Parce que quand on voit qu'avec 2 euros, on fait vivre un enfant, alors qu'ici, ça ne veut plus rien dire, l'argent, finalement. Ben c'est important d'avoir conscience de ça.
Alors, nous allons poursuivre ce voyage, musical en tout cas, avec ceci.
Thank you.
Vous avez reconnu la mort de Tristan, c'était Christa Ludwig, avec le Philharmonia Orchestra sous la direction d'Otto Klemperer. Pour parler du crépuscule des dieux, notamment, vous allez commencer à partir du 21 mai à l'Opéra Bastille et vous allez chanter à Waltraut. Vous et donc Sophie Koch, votre relation avec Wagner a commencé, vous étiez fifleur et écuyer dans Parsifal.
Exactement, en 97 au Châtelet. Et là, ce qu'on vient d'entendre, ça me ramène encore à Londres pour clore le chapitre, parce que c'est là que j'ai fait mes débuts dans Wagner et dans Tristan, justement. C'était un souvenir mémorable.
Et vous voulez toujours chanter du Wagner, parce que vous êtes né à Versailles, mais vous avez des origines alsaciennes aussi. Donc oui. L'allemand ne pose pas de problème pour vous?
Non, l'allemand, j'ai une certaine affinité. Pour notre public, peut-être on va faire en français quand même. Qu'est-ce que je disais?
Vous parlez de vos origines et votre relation avec Wagner.
Oui, c'est vrai, j'en ai toujours rêvé, sans imaginer qu'un jour je pourrais atteindre ce répertoire. Et j'ai le plaisir d'en chanter de temps à autre. Parce qu'on a l'impression, voilà, c'est un peu un fantasme qu'on a, qu'on se dit, oulala, faut être une grosse dondon, peser 150 kilos pour chanter.
C'est un peu la question que je voulais poser. Comment est-ce qu'on se prépare à un rôle comme dans le Crépuscule des dieux, qui est quand même assez pesant?
Je fais pas Brunhilde, donc déjà, c'est une intervention qui est restreinte dans le temps et qui est pas aussi... Il n'y a pas autant d'envolée, il faut pas autant de... de résistance physique. Donc c'est abordable pour quelqu'un de ma stature.
Comment est-ce que vous préparez vos rôles? Est-ce que c'est comme un acteur qui fait des recherches un peu sur le personnage? Comment est-ce que vous préparez à chanter dans le Crépuscule des dieux?
Le chant, en fait, ce que savent pas toujours les gens, c'est que c'est extrêmement physique. C'est plutôt comme un sportif, c'est une préparation. Il faut faire ses vocalises comme un sportif ferait ses échauffements. Moi, je trouve que la technique est fondamentale et c'est une discipline de vie exactement comme un sport.
Quelle est votre discipline de vie, par exemple?
Je ne peux pas me coucher tard, je ne peux pas boire, je ne peux pas fumer, je ne peux pas manger n'importe quoi, je ne peux pas trop parler. Voilà,
est-ce
rien que ça.
Vous avez peur d'attraper des microbes tout le temps? C'est la question qu'on pose toujours aux chanteurs.
Aussi, mais... bien sûr, parce que le moindre petit refroidissement, des répercussions sur la voix, on n'a pas 100% de ses moyens et il faut plus de 100% de ses moyens pour chanter.
Et à partir de quand les répétitions donc pour ce Crépuscule des dieux?
Nous commençons fin avril, vers le 18 avril, voilà, donc presque un mois de répétition.
Alors, c'est aussi pour parler de Dresde, vous avez touché un petit mot sur cette ville. Moi, je n'ai jamais été à Dresde. Ils ont recréé donc, la ville bombardée.
C'est une ville très touchante parce que moi, je l'ai connue en 96, cette ville. Pourtant, bon, le mur était tombé en 89, mais... En y arrivant en 96, j'ai eu l'impression d'arriver dans une ville en ruine, détruite. C'était très impressionnant. Il y avait la partie de la nouvelle ville, la Neustadt, très un peu grunge, où il y a beaucoup de jeunes qui étaient avec des immeubles de l'époque soviétique, où il y avait même des arbres parfois qui poussaient à l'intérieur des maisons, des tags partout. Et la partie de l'ancienne ville avec des bâtiments anciens baroques, qui essayaient de renaître de leurs cendres, dont la Frauenkirche, cette fameuse église emblématique de la ville, qui commençait à peine à être construite. Un des palais principaux, le Taschenberg Palais, qui est aujourd'hui un hôtel, n'était pas fini de reconstruire. Il y avait vraiment énormément de parties de la ville en reconstruction. Et moi, qui ai eu la chance d'y aller quasiment tous les ans depuis cette époque, à chaque fois que j'y arrivais, je me disais, mais quelle énergie, ils ont reconstruit telle et telle partie. À chaque fois, la ville se modernisait et s'ouvrait sur l'extérieur.
C'est un peu entre énergie et mélancolie,
exactement,
la ville que vous décrivez.
Mais complètement, complètement.
Et la mélancolie vient des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire que Dresde a été particulièrement
atteinte, en son cœur, en son âme.
Ou est-ce
âme.
Que c'est le fait aussi qu'il venait de sortir du communisme?
Je vous cite un exemple, une anecdote qui m'a frappée. Je suis allée écouter un concert, je crois que c'était Requiem de Mozart, qui est traditionnellement donné le 13 février, me semble-t-il. La fin du concert, je m'apprête à applaudir et personne n'applaudit. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Jamais j'ai vécu une expérience pareille. Et en fait, c'était en souvenir des bombardements. Traditionnellement, le concert du 13 février, on n'applaudit pas. Il y a comme une minute de recueillement. Tout le monde se remémore ce moment dramatique et en hommage à tous ceux qui sont morts et toute cette destruction massive on se recueille le 13 février.
Vous y retournez toujours à Dresde ?
J'y retourne toujours, j'y retourne l'année prochaine.
Vous faites vos longues
balades.
J'ai
beaucoup d'amis, justement, dû à ces longs moments de solitude.
C'était le week-end, c'est ça, que vous vous retrouvez?
Alors oui, je me partais en promenade, puisque je trouve que la nature vous donne plein d'énergie, où qu'on soit finalement dans le monde. Qu'on a un moment de blues, il faut aller à la découverte des villes, à la découverte des paysages. Et les bords de l'Elbe sont particulièrement émouvants parce que c'est une rivière qui n'est pas canalisée. Alors il y a beaucoup d'herbes folles, beaucoup d'endroits qui sont laissés un peu à l'abandon, qui sont sauvages. Et on peut marcher pendant des kilomètres le long de cette rivière et découvrir les coteaux. Et c'est une ville où il y a beaucoup de domaines viticoles aussi, avec des coteaux plantés de vignes. C'est magnifique.
Et à quoi est-ce qu'on pense, Sophie Koch, quand elle se promène le dimanche après-midi le long des...
Mais justement, je trouve que la nature vous vide. Le fait de se promener dans la nature, dans la forêt ou dans le long des rivières ou ailleurs, ça vous vide la tête. Parce que vous regardez le paysage et votre esprit est mobilisé par ce que vous voyez.
Vous ne faites pas de vocalise quand vous êtes
toute
seule ?
Non. Je regarde les plantes pousser, ça me nourrit.
Dir dein Ganz.
Vous écoutez Voyage en moi majeur ce dimanche soir sur France Musique. Ravi de vous avoir à bord de notre avion avec notre commandante de bord qui est Sophie Koch. Merci de nous piloter à travers le monde. C'était vous-même, pendant que vous pilotiez, qui chantiez Befreit de Richard Strauss avec Richard Demel. Au piano, c'est pour parler de l'escale qui nous attend, Vienne. Vous êtes allé à Vienne pour la première fois en 90 ?
97 ou 96, je ne sais plus, oui.
Et pour quelle raison ?
Pour faire un concert, parce que j'avais gagné un concours et voilà, j'étais allée me produire là-bas. C'était un honneur extraordinaire pour moi, cette ville mythique, en tout cas pour la musique.
En tout cas pour la musique. Oui. Et pourquoi la ville autrement ne vous...
J'avais pris le train avec une femme qui travaillait à l'ONU, qui était juive. Et puis on prend le train et on parle comme ça. Et elle me dit, mais... Vous n'allez pas le croire, mais je suis victime de racisme encore. Et en effet, ça c'est un des côtés un petit peu moins glorieux de la ville. On sent chez une certaine génération encore, dans le regard, pas de tolérance en tout cas envers les étrangers, les gens qui viennent d'ailleurs.
C'est une ville très touristique en tout cas. Moi j'ai été deux fois dans Vienne. Ce qui m'a frappé moi, c'est que c'est une ville... Qui paraît énorme vis-à-vis de son statut actuel. C'est une ville, encore une fois, avec une nostalgie, une mélancolie de son passé.
Oui, il y a un côté assez morbide. Et en même temps, on sent là que l'Empire est encore très présent. On sent que les gens, la génération des anciens, est encore très consciente de cette place énorme qu'ils ont occupée en Europe, de ce pouvoir, de cette emprise, de cette marque culturelle. C'est une ville magnifique avec des bâtiments superbes, l'histoire à la fois musicale, de la littérature, de la psychanalyse, de tout ce qu'on veut. Et c'est une ville dans laquelle il fait très bon vivre parce que on dit que c'est la ville la plus agréable en Europe pour vivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espaces verts, qu'on est tout de suite à la campagne, que dès qu'on quitte, même avec le tram, on prend le tram et on arrive sur les collines où au mois de septembre, on peut boire le petit vin blanc nouveau qui vient d'arriver. Il y a des côtés formidables.
Hein. Vous avez cité Salzbourg, en revanche, par rapport à notre questionnaire sur les villes qui vous ont le plus étonné en Europe.
Ça m'a étonnée parce que c'est la campagne, Salzbourg. C'est une toute petite ville, finalement, qui a pris une notoriété énorme avec son festival, mais qui, sur la carte, c'est pas une très grande ville.
Et c'est une ville que vous n'aimez pas, visiblement, si.
Oh, j'ai pas un très très bon souvenir parce que c'était une audition à mes débuts où j'avais dû prendre le train. C'est quand même plus de 10 heures de train. Il faisait un froid de canard et puis on m'a pas écouté. Donc, je suis repartie bredouille. La gare était fermée, il fallait attendre dans le froid. Enfin, ouais, c'était pas des bons souvenirs au début, mais maintenant, ça m'a quand même porté chance.
Comment est-ce que vous avez abordé toutes ces auditions ? Parce qu'il y a certaines auditions que vous n'avez pas eues, comme tout le monde.
Bien sûr,
d'autres
évidemment.
Vous avez changé un peu parce que maintenant, on vous prend partout, on vous court après.
Oui, à mes tout débuts, j'avais une attitude qui visiblement n'était pas la bonne, puisque les auditions ne réussissaient pas. Et puis un jour,
C'est ça, parce qu'on lit partout que vous avez eu des éditions qui n'ont pas marché au début, puis maintenant ça marche.
Déclic, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Je crois que je m'analysais trop au moment de ma prestation. Je me posais trop de questions. Puis un jour, je me suis dit, arrête de te poser des questions, ça passe ou ça casse. Et puis c'est passé.
Visiblement. Et qu'est-ce qui a fait tout d'un coup que vous avez décidé d'abandonner ? Vous avez abandonné le chant à un moment pour faire des études de com et de journalisme. Et puis tout d'un coup, vous êtes revenu...
Non, j'ai abandonné la musique. J'ai dû quitter parce que j'avais moins le temps, évidemment. Je ne savais pas si j'allais être journaliste. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc j'ai fait un peu de com au CELSA. Ce n'était pas du tout mon milieu.
De sciences politiques aussi.
Oui, j'ai tenté Sciences Po. Heureusement, j'ai raté deux fois.
C'était pas votre truc ?
Non, c'était pas du tout mon truc. Non. J'ai besoin de m'exprimer physiquement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le chant, c'est très physique. C'est un investissement de tout le corps.
Alors c'est Suave Silvento, avec notamment, vous avez entendu, Elisabeth Schwarzkopf, Mozart, bien sûr. C'était enregistré à Salzbourg en 1962, sous la direction de Karl Böhm. Pourquoi cette musique?
Pourquoi cette musique? Parce que Mozart, c'est une étape fondamentale dans ma formation, dans mon parcours musical. C'est associé justement à Vienne en grande partie. Ce qui est fabuleux à Vienne, à l'opéra, s'il y a des mélomanes qui nous écoutent, c'est que c'est chaque soir un spectacle différent avec des castes somptueux. Et voilà, le fait qu'on ait très peu répété, ça crée beaucoup d'excitation. C'est unique au monde.
Vous voyagez toujours autant?
Ça dépend des années. Cette année, j'ai la chance d'être beaucoup à Paris et donc un peu chez moi pour le ring. Et ça me convient bien aussi.
Et quels sont vos projets dans l'avenir après le Crépuscule des Dieux? Vous allez faire quoi?
Après le Crépuscule des Dieux, l'année Wagner continue. Donc il y a Rienzi à Salzbourg, Tristan au Proms, le ring à Munich. Et puis après, l'Opéra de Paris, tout à fait autre chose, Alceste de Gluck.
Alors, une découverte récente, vous avez répondu à notre questionnaire, Chicago. Vous ne connaissez pas avant?
Non, figurez-vous que je n'étais jamais allée aux États-Unis. Et j'attendais avec impatience ce moment. J'ai donc fait mon baptême avec Chicago. Et c'est une ville...
Pourquoi c'est un choc alors?
C'est un choc parce que déjà, j'ai toujours rêvé des États-Unis. Moi, les États-Unis, pour moi, c'est le cinéma. J'ai une passion pour le cinéma américain et la comédie musicale, entre autres. Et l'Amérique de l'après-guerre, surtout, parce que je trouve que c'est... une explosion d'invention, de fraîcheur, de nouveauté, d'enthousiasme. Et Chicago, ce qui m'a énormément plu dans cette ville, c'est à la fois la ville à l'américaine avec les buildings, tout ça, et le lac. Il y a un contraste extraordinaire. C'est quand on a marre du centre-ville, on va se promener en bordure de lac. Et là, ce lac, ce n'est pas un lac finalement pour nous, Européens, c'est une mer. Et voilà. On respire.
Donc, vos balades le dimanche après-midi
autour du lac.
Du lac.
Ouais.
Et vous étiez combien de temps? Vous êtes resté
presque 2 mois.
Et le style de vie américain correspond à ce que vous aviez pensé?
Tout à fait. Les gens sont très pros, sympas. C'est ce qu'on n'a pas, nous, en France. C'est cette approche plus facile, un contact plus facile, plus décomplexé. Et puis, en même temps, très pro, quoi. Très responsable dans le boulot, très, très, très sûr.
Alors, l'escale suivante sera à Toulouse. Et pour parler de Toulouse, vous avez choisi ceci.
Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béard un solo de batterie, v'là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noircis à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme. Quand le jazz dit gomène, la java dit gomme. Mais quand le jazz est là, La java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère, je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos.
Alors, pour parler de Toulouse, Nougaro, bien sûr, votre lien avec Toulouse est assez poussé parce que c'est là que vous avez rencontré notamment votre mari.
Oui, c'est là d'où est originaire aussi mon professeur que je connais depuis 22 ans et qui est retourné, qui était parisienne pendant de nombreuses années, Jeanne Verbier, et qui est retourné dans sa ville natale. C'est là que...
Il y a Nicolas Joël aussi qui vous a pas mal
rencontré. Nicolas Joël, qui m'a
marquante.
Oui, qui m'a fidélisé, ben, qui m'a donné des rôles importants et qui m'a fidélisé à une période importante de ma vie, puisque d'abord j'ai rencontré mon mari et ensuite ma fille aînée, et ça correspondait à ses premières années. J'étais contente d'aller régulièrement à Toulouse, comme j'habitais à côté. C'était une époque très agréable.
Nous avons beaucoup d'auditeurs toulousains, je le sais. Pour moi qui ne connais pas très bien cette ville, la ville rose, tout le monde me dit, qu'est-ce qu'elle a de spécial?
Moi, je suis une toulousaine d'adoption. Hein. Je suis plus audoise.
Non, mais tout à fait. C'est souvent les gens qui sont d'adoption. Moi, je suis un Français d'adoption. Je parle avec amour de la France et on me demande alors.
Mais ce que j'aime dans cette ville, oui, parce que j'ai trouvé que c'était une ville à taille humaine. D'abord, cette couleur de la pierre crée une chaleur. On se sent bien. On se sent comme dans un cocon avec cette pierre qui est sous le soleil, prend des reflets magnifiques. Et puis, on peut tout faire à pied. On va d'une place à l'autre, la place Saint-Georges, la place Wilson, la magnifique place du Capitole. Dès qu'il y a un rayon de soleil, tout le monde est en terrasse. Ça m'avait frappé parce que j'ai débarqué là-bas en 2002. Et je venais justement de Munich ou Dresde ou d'un froid de canard. Puis j'arrive là, je vois tous les gens en terrasse. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, et on profite de la vie à Toulouse, c'est ça qui est bien.
Vous baladez souvent à pied, vous, entre l'Elbe et Toulouse.
Mais oui, parce que je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moyen de connaître une ville que d'être à pied.
C'est faux, vous avez répondu à notre questionnaire, votre moyen de transport préféré, c'est le train.
Ah ben le train pour faire des longues distances, oui, oui, évidemment, au-delà de 100 km.
Le pire, c'est l'avion, vous n'avez pas l'avion,
c'est affreux,
vous
voyage
pilotez
comme du,
là.
Bah oui, on voyage comme du bétail aujourd'hui, c'est affreux.
Alors, vous êtes en l'Aude maintenant, vous avez votre maison dans l'Aude.
Oui, oui. Alors là, c'est la campagne totale entre Castelnaudary et Carcassonne. On a un agriculteur pour voisin, on a des animaux.
Et vos couchers de soleil sont comment dans l'Aude?
Ah, ils sont sublimes.
Racontez-les.
C'est une lumière, si vous voulez, c'est déjà le début de la Méditerranée. Moi, je suis très attachée à la Méditerranée aussi parce que j'ai passé toute mon enfance entre Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Toulon, tout ça, donc je connais bien.
En fait, vous êtes une fausse alsacienne,
oui,
et même une fausse versaillaise.
Bien sûr, oui. Vous très attachée à Versailles aussi.
Donc vous êtes née à Versailles, mais vous avez passé votre jeunesse donc.
Les vacances, disons que c'était le sud, et je suis très attachée à cette lumière exceptionnelle. Quand au creux de l'hiver à Paris, on est triste, on a le ciel qui nous tombe sur la tête, on fait un petit tour du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
En fait, vous êtes une vraie Française, parce que vous avez des origines d'un peu partout.
Mais j'adore la France. Je trouve qu'on a un pays magnifique, plein de ressources.
Mais c'est ça que je ne comprends pas, avec le déclic de partir à l'étranger. C'est ça que je ne comprends pas.
Mais j'étais obligée, mon ami, j'étais obligée.
C'est-à-dire
pour mon métier. Il faut bien que j'aille là où on me donne du travail.
Mais pourquoi on ne vous donnait pas de travail en France alors?
Mais on m'en a donné. Mais il faut élargir les horizons. C'est bien découvrir d'autres cultures, d'autres langues, d'autres manières de travailler.
Est-ce qu'il y a des pays que vous n'avez pas aimés?
Pas aimé. Alors, je peux pas dire pas aimé parce qu'il y a toujours du positif finalement quelque part. Mais j'ai eu un grand choc quand je suis allée à Tokyo. Là, j'ai pris en pleine figure. C'était la première fois que j'allais dans une ville si énorme. J'ai trouvé ça très gris. Cet enchevêtrement d'autoroute quand on arrive de l'aéroport et qu'on arrive dans la ville. On a du mal à respirer et on prend le métro. Ça m'a frappé. Les uns descendent à droite, les autres montent à gauche. Mais il ne s'agit pas d'aller dans la file de gauche. Hein. Il faut aller vraiment à droite. Au restaurant, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Les femmes toujours en retrait par rapport aux hommes. C'est une culture qui est à l'opposé de la nôtre.
Et la dernière escale pour notre voyage de ce soir sera à Venise.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees, spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my heart? Oh, April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees.
One more time.
Disons, je ne connaissais pas cette version non plus. April in Paris, Ella Fitzgerald. Et pourquoi vous avez choisi cette musique, Sophie Koch? Vous auriez voulu être chanteuse de jazz.
Ah oui, j'ai une passion pour le jazz, pour Ella Fitzgerald, qui est une de mes inspiratrices.
Mais vous n'êtes pas très crossover, hein? Parce qu'on imagine toujours que les chanteuses d'opéra peuvent en fait tout chanter. C'est tellement astreignant de chanter de l'opéra.
Ah, j'ai chanté quand même une fois Summertime en version avec, on était deux ou trois, et ça c'était un grand moment, à la radio en plus.
Et pourquoi vous avez choisi April in Paris?
Parce que c'est le printemps, qu'on a envie de guetter et qu'on est à Paris.
Alors, on a envie de guetter, c'est peut-être pour ça que vous êtes, vous, la marraine de tous à l'opéra. Parlez-nous de cette opération. C'est la 7e édition. Hein.
Oui, il s'agit de démocratiser, c'est un petit peu peut-être un grand mot, mais dire aux gens de ne pas avoir peur de pousser les portes de l'opéra, qui vont vivre une expérience unique.
Est-ce que les gens ont vraiment peur ou est-ce que c'est parce que il y a, bah, vous qui étiez étudiante de com, est-ce que c'est parce qu'il y a une mauvaise com faite autour de l'opéra, les gens ont l'impression que c'est un peu un monstre,
encore un
et
petit
aussi
peu
parce
un
que
mythe,
c'est cher.
Oui, un petit peu un mythe que l'opéra c'est snob ou que l'opéra peut-être il faut une certaine culture
c'est
pour
que
apprécier,
un mythe,
ou alors il faut un bagage, vous voyez, culturel, musical. Alors je pense que non, je pense que comme n'importe quelle expérience artistique, on y va vierge et on reçoit tout en pleine figure et puis ça peut vous transformer la vie.
Alors tous à l'opéra, c'est le 11 et le 12 mai. Et qu'est-ce qui se passe exactement?
C'est comme une sorte de journée de patrimoine, si vous voulez. Les portes des opéras de province et de Paris vont être ouvertes. C'est une entrée libre, donc les gens peuvent venir voir ce qui se passe, être dans le lieu et profiter.
Justement. Et votre application, ça, en tant que marraine, qu'est-ce que vous allez chanter vous-même?
Il est question que je fasse une petite masterclass pour montrer comment on travaille.
Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans vos vocalises, alors?
Pas moi, personnellement, non. Faire travailler des jeunes. Parce que l'opéra, c'est aussi la jeunesse, ceux qui arrivent, qui ont envie de débuter, qui ont envie de découvrir ce métier.
Alors, c'est tous à l'opéra, le 11, 12, mais c'est partout en France?
Partout en France, tous les opéras de province quasiment participent à l'opération.
Alors, c'est ça votre actualité, en plus du crépuscule des dieux. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour vous reposer?
De la cuisine ou du jardin?
Le jardin, c'est quel genre?
Le jardin, c'est dans l'Aude. C'est dans l'Aude surtout, oui. Là, il faut désherber. Et ça fait du bien d'arracher les choses de la terre. Ça vous libère votre énergie négative.
Alors, entre le fait d'arracher des choses de la terre et éplucher vos légumes, merci de nous avoir fait voyager. Et puis, nous allons terminer sur un dernier morceau de musique qui est Ravel, Barque sur l'océan. Et pourquoi vous avez choisi cette musique?
Parce que j'avais envie de parler un tout petit peu de Venise aussi, qui est une ville qui a été une vraie révélation pour moi. Et il y a tellement d'eau partout que la barque l'océan me semblait bien convenir.
Merci beaucoup, Sophie Koch.
Thank you.
Voilà, c'était Parc sur l'océan de Ravel par Sanson François. C'est la fin de notre émission, le choix musical et musical à travers le monde par Sophie Coche. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ah, il faut que je fasse là des annonces encore, mais ce sera avec plaisir. Mesdames et messieurs, en vue de notre prochain atterrissage, veuillez redresser votre imaginaire et raccrocher votre curiosité au nom de toute l'équipe avec aux commandes Fabien Florin, notre réalisateur, Maud Nourry, l'assistante de production, et ce soir Philippe Palares à la technique. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et nous espérons vous revoir la semaine prochaine pour un autre vol de France Musique.
Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à Toronto, mais vous pouvez rester assis jusqu'à l'arrêt complet, la barre est terminée.
Pour piloter notre barque sur l'océan de ce dimanche soir, des nuits noires de monde, c'est Laurent Valero. Bonsoir.